Donc aujourd'hui, 2 mars, nous continuons notre première séance qui consistait à exposer donc l'existence de Dieu, Créateur et Père, un Dieu qui est esprit, éternel, intelligent, dans la volonté, et la création des anges, de purs esprits, et la création du cosmos, des galaxies, de la terre, des plantes, des oiseaux, des animaux, et la création de la nature humaine, qui est une union entre les purs esprits et un corps animal. Mais tout ça, non pas par le hasard et les millions d'années, par la volonté de quelqu'un, la volonté d'une intelligence supérieure et puissante qui peut agencer la matière d'une manière très compliquée. Et ce qui est le hasard, c'est ce qui arrive de temps en temps, mais pas ce qui arrive toujours. Vous voyez ? On ne peut pas dire que ça soit par hasard qu'il pleuve, parce que c'est un cycle systématique de l'évaporation et de la pluie. Donc c'est pas par hasard qu'il pleut, vous voyez. C'est qu'il y a une volonté de créer de l'eau, de créer ce mouvement de l'eau, c'est par évaporation et par pluie. La photosynthèse n'est pas par hasard. C'est pas, vous voyez. D'ailleurs, si c'était vraiment purement par hasard, pourquoi il n'y aurait pas encore des essais de la nature aveugle? On n'a pas des plantes qui meurent parce que la photosynthèse n'est pas encore au point dans telle graine ou je sais pas quoi. Enfin, si vous voulez, la photosynthèse fonctionne vraiment très bien. Ensuite, vous avez des échanges gazeux absolument invraisemblables. Vous avez aussi même des réactions d'arbres par rapport à des parasites qui envoient des spores ou des informations olfactives ou chimiques plutôt d'arbre à arbre pour prévenir de la venue de certains parasites de chenilles ou d'insectes. On a découvert ça, hein, c'est les arbres à ce moment-là. Un arbre malade ou atteint va émettre telle substance chimique qui va permettre aux autres arbres d'organiser une défense. Enfin, c'est, vous voyez, si tout ça c'est pas fait par hasard, franchement, alors à ce moment-là, vous voyez, j'ai cueilli ça sur un téléphonier. Hein. Au bout de 2 millions d'années, on a un LG. Hein. Bon, pour les Apple, il a fallu attendre 3 millions d'années. C'est un peu plus compliqué et plus cher. Mais si vous voulez, si ma main bouge par hasard, alors à ce moment-là, ceci téléphone par hasard. Hein, capte les ondes par hasard. Il n'y a aucune intelligence, aucun ingénieur qui a fait ça. Mais c'est vrai aussi pour un trombone. Quand vous coincez des feuilles, eh bien, si vous trouvez un trombone dans le sable du désert, eh bien, vous pouvez dire qu'un être intelligent a marché ici et a laissé tomber ce trombone. Parce qu'il n'est pas possible au métal de se faire un tornicoton comme ça pour fixer des pages ensemble. Il y a une forme pour un effet. Les yeux ne voient pas par hasard. Imaginez que si le hasard et le temps étaient maîtres de la création, ça voudrait dire que nos yeux voient par hasard. Décryptent la longueur d'onde des photons qui rebondissent sur les surfaces différentes et qui repartent avec des longueurs d'onde différentes, ce qui fait des milliards de couleurs que l'œil humain décrypte et envoie par le nerf optique jusqu'au cerveau. Tout ça, c'est par hasard. Il faut être quand même très culotté pour être journaliste de France Inter et encore nous faire un sujet sur l'admirable évolution hasardeuse qui a obtenu de la bactérie, en passant par le poisson, le serpent, l'oiseau, et ça a bifurqué chez l'homme, on ne sait pas trop quand. Si vous voulez, que Dieu ait formé les espèces en faisant évoluer et en transformant l'ADN, c'est tout à fait possible. Mais de toute façon, c'est fait exprès. C'est pas possible qu'il n'y ait pas une intelligence supérieure, qu'il n'y ait pas un créateur. C'est pas possible, vous voyez. Et c'est la raison pour laquelle tous les peuples sont croyants. Et que c'est un Occident oisif et capricieux qui ne se soucie plus de Dieu. Mais affirmer avec crânerie que Dieu n'existe pas, c'est... voilà. C'est vraiment vouloir écarter le problème de la cause des choses et de la volonté d'un effet dans les choses. Vous voyez ? Et même un tournevis, c'est l'intelligence humaine qui... Ça a l'air tout bête un tournevis, hein, mais si vous trouvez un tournevis dans le désert, ben, c'est un homme qui l'a fait tomber. C'était pas un chameau. Mais... Enfin, je reprends pas ce que j'avais dit la dernière fois, mais c'est pour vous dire. Donc la croyance humaine, les religions, la révélation biblique est très importante. Nous étions à la... Je vous avais dit que le couple humain d'Adam et Ève est un couple historique pour la foi biblique. Alors c'est très intéressant, il faut prendre la chose comme elle est et avancer pour voir la cohérence. Une des cohérences, eh bien, c'est le fait que nous sommes à presque 7 milliards d'habitants sur Terre, et si vous remontez les siècles, vous en avez toujours moins, toujours moins, toujours moins, toujours moins. Et comme nous avons le même ADN, que nous soyons noirs, jaunes ou blancs, eh bien, nous venons d'une même espèce. Et cette espèce, eh bien, on constate que Dieu l'a pas créée multiple, mais l'a créée en pyramide. Et je vous avais expliqué que l'inceste n'existe que entre parents et enfants. L'inceste naturel, ce qui est contre nature, c'est que des parents aient des relations avec leurs enfants. Mais ce n'est pas contre nature qu'un frère et une sœur aient des relations parce qu'ils sont égaux et que l'époux et l'épouse sont égaux. Seulement, voyez-vous, ce n'est pas la paix dans la famille lorsqu'il y a le désir et la concupiscence. Donc, l'homme va rejeter le mariage entre frères et sœurs rapidement. Et Dieu va confirmer ce rejet. Alors, quand vous voyez je vous avais parlé du premier mort, c'est-à-dire les Adam et Ève ont des enfants entre le Tigre et l'Euphrate. Et ce premier mort, c'est Abel. Donc ça leur fait tout drôle, parce que je vous ai dit que la nature humaine aspire à l'immortalité du fait de son âme. Nous ne comprenons pas les limites de notre corps animal parce que nous avons une capacité intellectuel d'abstraction insondable. Notre âme est comme un ange capable de tout enregistrer d'une manière extraordinaire. Aussi bien des images que des concepts, que des idées, on n'a pas de fond. Quand nous verrons Dieu dans son essence, nous ne pourrons pas épuiser Dieu, mais nous boirons la lumière divine, la vie divine sans arrêt. Parce que il n'y a pas de limite à un pur esprit. C'est la matière qui limite. Notre âme est immatérielle, donc elle n'a pas de limite. Elle peut sans arrêt saisir les informations et les vérités, sans arrêt. Mais comme Dieu est inépuisable, si vous voulez, eh bien Dieu aura toujours quelque chose à nous montrer et il n'y a pas d'ennui. L'éternité, c'est de vivre en Dieu. Et alors, ce qui sera impressionnant, c'est qu'on continuera à connaître Dieu et toujours plus. Et est-ce qu'on aura la sensation du temps qui passe? Ça, on verra bien. Mais si vous voulez, c'est le fondement même de la complexité de notre nature. Cependant, voyez-vous, en effet, le mariage est une réalité de multiplication de la nature humaine. Un mariage a pour première fin la différence sexuelle. C'est à cause de notre différence sexuelle que nous nous marions. Voyez, et c'est évident. De nos jours, ça ne l'est plus, mais ça reste une vérité, très grande vérité. C'est-à-dire que vous mettez un homme nu et une femme nue, hein, mais c'est différent, et puis ça marche. Vous voyez, deux femmes, ça ne marche pas du tout, et les hommes, ben, c'est extrêmement infectieux, il faut des précautions considérables. Et ça provoque des maladies, mais pas seulement virales, parce que ce sont des foyers d'infection. Vous voyez. Et donc cette différence sexuelle, elle est ouverte sur la vie. Adam et Ève ont leurs enfants, leurs enfants se marient entre eux. Les cousins se marient entre eux. C'est encore possible de nos jours d'ailleurs. Entre cousins germains, on peut se marier. Et les gens se multiplient. Caïn, lui, est dans la haine et il part et il crée son clan. Caïn. Et Caïn va avoir, des enfants qui seront les premiers polygames. Alors vous me direz, mais comment on sait ça? Ben c'est la tradition mosaïque. Hein. Moïse a la tradition adamique, historique, qui est passée par Noé. On sait que les premiers polygames ont été les enfants de Caïn. Or, vous avez les autres enfants d'Adam et Ève sont monogames. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que dans les différentes générations, vous arrivez jusqu'à Noé, à la septième génération. Septième patriarche, c'est-à-dire septième aîné. Vous voyez, premier enfant des couples. Vous voyez, Adam et Ève ont Seth qui, lui, est l'aîné après eux. Ensuite, Seth, un enfant qui est l'aîné après eux. Ensuite, vous avez Enoch, qui est la troisième ou quatrième génération, jusqu'à Noé. Donc Noé est le septième aîné, je crois, hein, par rapport à Adam. Et il a trois fils, Sem, qui ont donné les Sémites. Vous voyez, de nos jours, le monde est rempli de références historiques. Quand on est antisémite, c'est parce qu'on est contre un peuple du groupe ethnique sémite, qui est le peuple juif. Mais qui sait que sémite vient de Sem dans la Sainte Écriture? Enfant de Noé, Sem. Japhet, qui lui partira vers l'Occident. Et vous avez Cam, qui lui partira vers l'Afrique. À partir du Tigre et de l'Euphrate, hein, ceux qui disent que le berceau de l'humanité est en Afrique sont de grande mauvaise foi parce qu'il n'y a pas de traces civilisationnelles anciennes en Afrique. Il faudrait que ça soit des singes qui soient ensuite partis vers le nord. C'est faux. Toutes les plus anciennes cités, on les trouve en Babylonie, et toutes les plus anciennes nécropoles, on les trouve en Babylonie. C'est un fait historique, le reste. Ça correspond à la Bible, tant mieux, voyez, pour nous. Mais bon, c'est à laisser à l'appréciation, ensuite, des scientifiques et des historiens.
Oui. Qu'est-ce qu'on connaît des autres fils et filles d'Adam et Ève?
Eh bien, uniquement certains noms.
Qu'est-ce qu'on connaît comme noms? Je ne les connais pas du tout, en fait.
Oui, mais c'est dans la Bible, là, je ne l'ai pas. Excusez-moi. Je devrais l'avoir, hein, pour la leçon. Et donc, vous avez différents noms qui sont donnés, peu. Hein, on donne les aînés, en général. C'est comme ça qu'on a, par contre, tous les noms d'Adam jusqu'à notre Seigneur. Hein. Ininterrompu. Ensuite, vous avez donc... cette vie. Donc Noé a ses trois fils qui sont tous les trois mariés et ils sont tous les trois monogames. À l'époque de Noé, les descendants de Caïn sont devenus des meurtriers et des idolâtres extrêmement violents. Donc Dieu se révèle à Noé et lui dit: je vais refonder l'humanité, je vais tous les faire mourir sauf toi et ta descendance, avertis-les. Alors il est là et donc il va aller avertir. Donc depuis Adam et Ève, il n'y a eu que sept aînés. Ils se sont mariés les uns les autres. Donc vous avez les temps de la Bible qui sont analysés, critiqués. Dans la tradition de l'Église, il vous est dit de manière audacieuse, on verra ça au jugement dernier, que pour les débuts de l'humanité, il n'y avait pas de mortalité. Les enfants ne mouraient pas, les femmes étaient, il y avait une santé extrêmement forte. Et les personnes étaient, fertiles longtemps. Vous avez dans la Sainte Écriture Abraham qui a un enfant avec sa femme qui a 80 ans. Mais ça, c'est plus par miracle, parce que du temps d'Abraham, déjà, l'humanité s'épuise. Mais les premiers temps de l'humanité se trouvent avec une robustesse particulière. C'est l'explication, ce qu'on appelle concordiste, hein, c'est-à-dire on veut absolument que tous les chiffres de la Bible soient très réalistes. Hein, c'est Mathusalem qui a vécu 990 ans. Mais ça, on verra au jugement dernier. Mais si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que Dieu, après le déluge, dit maintenant l'homme vivra 120 ans. C'est-à-dire qu'il y a une mortalité historiquement précisée aux sorties de l'arche. Ensuite, on peut considérer ça comme une légende. Écoutez simplement ce que vous dit la tradition biblique, parce que c'est un lien avec le mariage. Ils sont là, et pendant 40 ans, je crois, ils construisent l'arche. Donc ils coupent les troncs, ils mettent du bitume, ils font un truc de 100 mètres de long sur 50 mètres, enfin c'est un truc monumental, et il le fait tranquillement avec ses enfants. Il y a eu un film, Noé, qui était complètement faux malheureusement, pourtant la description de la Bible est très simple. Donc ses fils sont pas encore mariés, il y a un enfant qui naît dans l'arche, enfin il rajoute, c'est un peu bête, c'est dommage. Par contre, la description de l'état de l'humanité à ce moment-là est très réaliste. Ensuite, il fait intervenir des géants qui sont des sortes d'anges qui auraient pactisé avec les hommes et qui sont avec des corps de pierre, enfin c'est n'importe quoi. En général, ça c'est de la cabale, hein, c'est des traditions cabalistes. Voilà. Et moi, je vous dis, je vous fais de l'histoire sainte qui colle au texte. Noé avertit les hommes. Il va y avoir un déluge. Il va pleuvoir. Ils vont tous mourir, sauf ceux qui seront sauvés dans l'arche. Personne ne le croit. Bah, vous me direz, construire un bateau dans la plaine du Tigre et de l'Euphrate, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, c'est le mont Ararat, hein. C'est sur le mont Ararat que l'arche est descendue, mais à cet endroit-là, il n'y a pas d'eau, hein, il y a des fleuves. Et là, il fait rentrer tous les animaux de la plaine, parce que tout le monde va mourir. Donc c'est joli, parce qu'avec le temps, on fait rentrer tous les animaux du monde, mais c'est tous les animaux de la plaine. C'est pour la tradition biblique, attention, hein, c'est un fait historique, c'est pas légendaire. Je vous le dis, vous avez la chance ou la malchance d'avoir un prêtre qui connaît tout l'enseignement de l'Église précis et historique et qui vous dit ce que l'Église enseigne authentiquement. Ensuite, ça va faire des décennies que les prêtres ne croient plus à ceci ou à cela. Les évêques relativisent énormément. À la fin, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Un jour même, il y a un prêtre colombien qui m'a dit que Lazare avait pu se ressusciter lui-même par la force de la concentration de sa volonté. Hein, 4 jours après sa mort. Vous voyez? Donc, il m'a dit peut-être qu'un jour on découvrira qu'il est possible de reconstituer notre corps, que l'âme puisse se concentrer et agencer la matière pour la refaire vivre. Non, on n'a pas cette capacité. Même les anges ne l'ont pas. La vie est un équilibre extrêmement fragile qui est impossible à recréer nous-mêmes. Impossible. C'est pour ça que c'est un miracle. Il n'y a que Dieu qui puisse faire revivre un cadavre. C'est clair. Et voyez-vous, nier à ce point les miracles pour que tout soit naturel, que tout soit plus simple... Ben c'est nier le surnaturel dans la vie humaine, c'est sûr. Alors du coup, ben il n'y a pas de saint, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas... Vous voyez, les Incas se sont convertis, d'abord parce que les Espagnols les ont aidés, les villages qui étaient les réservoirs de sacrifices humains ont été les soldats des Espagnols, C'est pas 300 soldats espagnols qui ont vaincu le grand Inca. Hein. Ils avaient toutes les tribus avec eux. Hein. Je sais pas si on vous a fait la véritable histoire de la découverte de l'Amérique, mais les Espagnols avaient toutes les tribus qui étaient ponctionnées de sacrifices humains qui se sont liées aux Espagnols. Ensuite, que les Espagnols abandonnent leur religion, leurs coutumes, leurs superstitions, ça a été plus difficile. Et puis les Espagnols, les uns étaient bons, les autres étaient durs. Et vous savez, le roi d'Espagne qui a fait enfermer Christophe Colomb pour mauvais traitement aux Indiens. Mais ça, personne ne connaît l'histoire. Hein. C'est des caricatures anti-européennes, anti-occidentales, hein, jusqu'à la colonisation est un crime contre l'humanité. Hein, mais je vais pas faire de politique. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Indiens étaient un peu hésitants. Hein, un dieu homme, un dieu crucifié, un dieu perdant, un dieu, mais ressuscité ensuite. Mais bon, comment Dieu, le soleil, la toute-puissance peut se laisser tuer, jusqu'à l'apparition de la Vierge Marie à un Indien, Diego, à Guadalupe, près de Mexico, dans les années 1540. Elle apparaît enceinte, et elle demande à cet Indien, qui avait été baptisé, de faire construire une chapelle, et le manteau de cet Indien a l'image de la Vierge imprimée sur lui, quand il va voir l'évêque. Ce qui fait que les autres voient cette image. Elle est toujours conservée dans l'église de Guadalupe, dans la cathédrale. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est un poncho en fibre de végétal. Il devrait être en poussière depuis au moins 350 ans. Et il est intact. Et les couleurs sont intactes. Et quand on analyse les couleurs, le pigment n'est pas terrestre. On voit les couleurs. Et le pigment n'est pas sur le tissu, c'est-à-dire que quand on analyse le tissu, on ne voit pas le pigment sur le tissu, et on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui fait la couleur et qu'est-ce qui fait le pigment. C'est très impressionnant, Notre-Dame de Guadalupe. Eh bien, les miracles, les voilà. Il pleut pendant 40 jours. Les gens qui n'ont pas cru Noé, mais lui, Noé, il est là, il se protège. Tout le monde est noyé. Donc vous avez, à cette époque, environ quelques milliers d'hommes, entre Adam et Noé, cette génération, avec les différents âges, et ils meurent tous. Et quand la pluie s'arrête, vous avez la description qui est amusante, hein, il envoie un corbeau, il envoie une colombe, la colombe revient, parce que la colombe déteste la saleté. Et à un moment donné, la colombe revient avec un brin d'olivier. Donc les arbres sont sortis de l'eau. L'eau baisse suffisamment pour que vous ayez la cime des arbres. Mais il n'y a que la cime des arbres. Donc elle revient avec le rameau d'olivier. Hein, symbole à l'ONU et tout ça, hein, c'est biblique. Et ensuite, la colombe ne revient pas. Et puis, l'arche retombe sur le sol, il ouvre et voilà. Mais il n'y a plus que 8 personnes. C'est-à-dire que nous sommes les descendants de 4 couples. Il y a une tradition, mais qui n'est pas biblique, qui dit que Noé aurait eu d'autres enfants. Et qui aurait donné. Noé serait parti vers l'Asie. Les Chinois ont un ancêtre dont le nom est Noé. Mystère et boule de gomme. Ça, c'est pas dans la Bible, donc je n'insiste pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez Noé et sa femme, Sem, Cam et Japheth, ses 3 enfants, et leurs épouses. Et tout recommence à partir de là. Alors, pour vous choquer un peu plus, ils se sont mariés à nouveau entre frères et sœurs. Vous voyez ? Encore du temps de Noé, on se mariait entre frères et sœurs. Alors, ils ont leurs enfants, ils cultivent, ils revivent, les animaux qu'ils ont conservés, les couples, 7 couples pour les animaux, comme les bœufs, enfin les bœufs, les taureaux, les vaches, le bétail. Vous voyez, c'est pas par paire, c'est 7 paires. Hein, enfin, bon, ça dans l'arche, ils sortent, ils mangent, ils cultivent, ils prennent du raisin, mais l'homme n'avait pas encore découvert le vin. Et donc, ils prennent du raisin, ils voient qu'on c'est pratique de le presser, et le jus de raisin est à un moment laissé dans un bol ou dans un récipient. Et ce raisin tourne et s'alcoolise. Noé prend ça, trouve ça bon, vinaigré ou pas, je ne sais pas. Et il boit et il devient saoul. Le premier homme saoul de la création, c'est Noé, le pauvre. Peut-être qu'il y en a eu avant le déluge, hein, qui avaient découvert ça eux-mêmes, mais Noé ne le savait pas, en tout cas. Et il est ivre et il sort de sa tente en titubant. Mais il ne s'est pas habillé. Et vous avez Sem et Japhet qui reviennent de la chasse. Vous avez Cam qui est là et qui voit son père nu et qui se moque de lui. Et Sem et Japhet, par pudeur pour la nudité de leur père, prennent le manteau de leur père et, à reculons, marchent vers leur père pour le couvrir du manteau, pour pas le voir nu. Et ensuite, quand Noé reprend ses esprits, Noé, au sortir de l'arche, les huit survivants ont été bénis par Dieu. Noé dit : « Je ne peux pas te maudire, toi, Cam, mais je maudis tes enfants. » Alors, vous allez me dire, c'est raide. Les malédictions existent à l'époque et sont efficaces. Son premier enfant est Canaan. Et ils vont partir, ils vont rapidement devenir idolâtres. Mais ils restent encore entre le Tigre et l'Euphrate, sur le mont Ararat, ils partent pas loin. Donc c'est pour vous dire que donc historiquement vous avez ces mariages qui se font, la polygamie revient, et à un moment donné, tous ces descendants de Sem, Cam et Japhet, qui sont par clan, hein, parce que c'est patriarcal, hein, donc ils se mélangent pas. Il peut y avoir des mariages entre clans, mais vous voyez, il y a trois enfants, il y aura trois clans. Et à un moment donné, l'idolâtrie reprend tous ses droits, sacrifice humain. Ils tuent des bébés, ils égorgent des bébés à la lune, au soleil, tout ce que vous voulez. Et comme Dieu avait promis qu'il n'y aurait plus de punition, avec l'arc-en-ciel qui est la fin de la pluie du déluge. D'ailleurs, c'est pour ça que la communauté LGBT prend l'arc-en-ciel comme symbole, en disant à Dieu, tu ne nous puniras pas. C'est très religieux comme signe, hein. C'est pas rien. Hein. Et donc, vous avez donc les idolâtres qui vont dire on va insulter Dieu, nous avons la tradition du péché originel, nous en sommes fiers. Dieu nous fait souffrir, nous avons à travailler, nous pouvons être malades, alors qu'ils étaient robustes à l'époque, hein, mais là, voyez-vous, on est après le déluge et Dieu décrète qu'ils mourront à 120 ans. Et donc les hommes, cette limite de cette 120e décennie est pénible pour eux. Et pénible pour nous aussi. Enfin, à 80 ans, on n'est déjà pas en grande forme. Hein. Et là, ils vont construire une tour, comme les tours babyloniennes, les tours de ces siècles-là. Hein. Que je dise pas de bêtises, on est 3000 ans avant Jésus-Christ, environ, hein, la tour de Babel, le déluge, la tour de Babel. Je me trompe peut-être à 500 ans près, hein, d'après le compute biblique, hein, mais je vous donne l'histoire sainte et après vous en faites ce que vous voulez. Donc vous avez la tour de Babel, c'est une tour classique babylonienne, dont la base, comme les hommes ne savent pas faire encore des murs bien, bien parfaits, tout ça, donc ils font une base énorme, puis ensuite plus petit, puis ensuite plus petit, puis ensuite plus petit, vous voyez, avec un escalier qui tourne pour monter jusqu'au sommet, pas forcément par l'intérieur parce que c'est trop compliqué, ou pour étayer les étages, vous voyez. Les Égyptiens auront une tradition assez équivalente, hein, ils accumulent les pierres, mais ils n'y font pas quelque chose de droit parce que ça peut s'effondrer, ils font quelque chose de pyramidal, ça ne s'effondre pas. Et donc, ils disent, nous allons insulter Dieu, nous allons monter jusqu'aux cieux. Donc ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Et là, vous avez un miracle particulier, qui est très très drôle, de la part de Dieu, qui a beaucoup beaucoup d'humour à ce moment-là. Alors qu'ils ont la langue adamique, ils ont tous la même langue, hein, de la science infuse du premier couple. Ils n'ont pas inventé leur langue, Adam. Ils n'ont pas C'est pas dans le film Adam, homme, il a un minimum de connaissances, de vie. Vous voyez, Adam ne s'est pas empoisonné, il n'a pas mangé de la terre, il n'a pas fait des expériences comme un enfant. Parce qu'il serait mort. Vous voyez. Il aurait fallu plusieurs générations pour qu'on ait la science infuse d'Adam. Alors, voilà, je vous dis l'histoire sainte. Ensuite, vous dites, oh, c'est complètement con, enfin, c'est légendaire. Non. Je vous dis quelle est la tradition biblique que vous trouvez chez les fondamentalistes protestants américains, hein, sans problème. Mais eux, si vous voulez, à la fin, ils vont partir en vrille. Moi, je vous dis ce que l'Église catholique a toujours enseigné et n'ose plus vraiment dire publiquement. Mais c'est tellement intéressant pour le mariage et pour comprendre la polygamie et le peuple hébreu quand on va arriver là, que ça va mettre les choses en perspective sur l'histoire de l'humanité de manière incroyable. Donc,